cuisine, en train de boire une bière devant un cendrier plein, en robe de chambre, pâle, défaite, qui finirait par lui dire d'une voix lasse que, bon, finalement, elle n'en avait rien à foutre, et qu'il pouvait aller se faire pendre. Mais non, ça n'était pas arrivé. Chaque jour, au contraire, il l'avait trouvée plus forte, plus déterminée. Et même s'il ne faisait rien pour l'aider, il ne faisait rien non plus pour l'empêcher d'avancer. Il s'étonnait chaque jour davantage, le jour où elle s'était fait couper les cheveux très courts, le jour où il pensait qu'elle reviendrait bouleversée et désespérée, parce qu'elle allait en Bourgogne et signer la promesse de vente de cette maison familiale à laquelle elle tenait tant et d'où elle était revenue grave, mais heureuse et presque rayonnante. Le jour encore où, les billets d'avion en main, elle avait déballé dans le salon tout le matériel, les sacs qu'on aurait, les fringues, tout. C'est comme si, quelque part, il n'y avait pas cru, comme si tout ça lui paraissait impossible. Et alors il remettait chaque jour le projet de sa fugue, comme s'il était hypnotisé par l'énergie de sa mère, hypnotisé ou tellement incrédule qu'il voulait voir le moment où elle finirait par s'effondrer, par abandonner, par céder. Sauf qu'un matin, Sibyl était venue le chercher dans sa chambre. Elle avait ouvert le volet et la fenêtre en grand. Une bourrasque d'un air presque froid avait balayé la chambre. Il s'était réveillé, avait regardé sa mère, souriante, presque belle, déjà prête. Elle avait dit d'un ton étonnamment joyeux « Samuel, tu n'as pas oublié, non? Alors prépare tes affaires, cette fois ça y est, on part dans 2 heures. » Et voilà maintenant 1 mois et demi qu'ils ont quitté Bordeaux. Plus de 2 semaines qu'ils ont passé la nuit chez Bektash et sa femme. Et, depuis, le pistolet de Jamila et les cartouches attendent dans une sacoche qui dort tous les soirs à côté de Sibyl. Ils se parlent peu. Ils économisent leurs forces et se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Les mots sont ici comme tous ces poids morts dont on se débarrasse, parce qu'ils ne servent qu'à alourdir les bagages. Tous les jours, toutes les heures, d'autres occupations les attendent, tellement indispensables qu'ils y pensent même le soir avant d'aller se coucher. Trouver de l'herbage et de l'eau, un village, un campement où l'on pourra prendre des vivres. Mais tout tourne autour des chevaux. Sibyl les soigne, les panse, les abreuve. Samuel s'occupe de trouver du fourrage, de sceller les bêtes, de poser les entraves lorsqu'ils font une pause ou qu'ils s'arrêtent pour la nuit, de désangler, d'apaiser, de vérifier les fers, ce dont il s'acquitte maintenant avec patience et tact. Il prend parfois le temps de le faire sans même écouter de la musique. Au début, pendant la première semaine, il n'arrivait pas à ne pas avoir les écouteurs dans les oreilles, sans doute parce qu'il redoutait que sa mère décide de lui parler. De quoi? Tout avait été dit, ils étaient là, ok, on fait ce qu'il y a à faire et après on rentrera. Mais il avait fini par retirer ses écouteurs parce qu'il avait commencé à prendre plaisir à parler aux chevaux, à rester avec eux, à les écouter aussi, leur souffle, leur jeu, leurs humeurs, et qu'il avait remarqué que le son strident des écouteurs les affolait. Il avait trouvé un appareil qui fonctionnait avec des piles, moyen le plus sûr, avait-il pensé, de ne pas tomber en rade. Des piles, oui, un vieux truc à piles, un baladeur CD que son père lui avait fourgué. Il s'était préparé toute une sélection de musique, avait passé des heures à se graver des disques. Il gérait son stock de piles avec précaution, parce qu'il était terrorisé à l'idée de se retrouver condamné à ne pas avoir de musique avec lui, comme si on l'obligeait alors à se promener nu dans la rue, ou que la réalité allait lui écorcher la peau, le rendre plus vulnérable. Il gardait l'écoute pour les heures qu'il s'était fixées, surtout le soir, avant de sombrer dans le sommeil. C'était l'un de ses loisirs. Pas de film ni d'internet, aucun réseau social, au départ une sensation de vertige, et maintenant il s'y fait. Il a trouvé une autre façon de s'occuper. Ce soir, comme tous les soirs, il regarde le soleil qui descend, les montagnes, l'horizon, et il demande à sa mère, avec la même intonation précautionneuse et coupable, « Dis, tu me montres le pistolet? Je peux regarder le pistolet ?» Maintenant, une sorte de compréhension intime s'est imposée entre eux. Ils se retrouvent chaque matin avec plaisir. Les chevaux hennissent, manifestent qu'ils sont heureux. Chevaux et humains se comprennent et réagissent pareillement.